Connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie.
Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine.
Comment appelez-vous ça?
Oh, quelque chose comme un dinosaure préhistorique. Ah, si je pouvais seulement en ramener un vivant.
Deuxième épisode, l'insaisissable serpent de mer. Avec dans les rôles principaux, Paul Leblond, le chercheur canadien qui a traqué ce monstre marin inconnu pendant 50 ans.
Qu'est-ce que c'est? C'est pas un poisson parce qu'on le voit à la surface. On l'a entendu faire des bruits.
Éric Buffeteau, paléontologue et chercheur au CNRS.
Souvent, il est décrit aussi comme ayant plutôt une tête ressemblant à celle d'un cheval et parfois une crinière même. Donc, des morphologies très, très variées.
Et Éric Joie, un cryptozoologue bien de chez nous.
Sérieusement, tête de chameau, de cheval, on ne voit pas. Là, on a des points d'interrogation.
Tu sais, avec le matériel que nous avons à bord, nous espérons capturer un nouveau spécimen, n'est-ce pas, docteur? Comme le sélacanthe. Oui, c'est une espèce disparue depuis des millions d'années.
Quand la créature s'approcha, nous pûmes voir que c'était sa tête et son cou qui dépassaient de l'eau. Nous avons été saisis de terreur. Et nous avons poussé un soupir de soulagement quand elle poursuivit sa route. Ses yeux étaient semblables à ceux d'une vache, mais apparemment recouverts d'une membrane. Sa couleur était brune et avait un aspect écailleux. On ne pouvait distinguer ni bouche ni narine. On estima sa longueur à 7,50 m. Son cou dépassait de l'eau d'un peu plus de 2 mètres. Cette bête se déplaçait à 10 ou 11 km/h, en balançant la tête d'avant en arrière, comme les serpents.
Cette étrange rencontre avec un animal aquatique inconnu et inquiétant a été rapportée par deux marins le 22 mai 1922, alors qu'ils naviguaient au nord de la grande île de Vancouver. Des témoignages comme celui-là, on en trouve des centaines dans le livre à succès « Le grand serpent de mer, l'énigme zoologique et sa solution », publié en 1965 par Bernard Heuvelmans, le père de la cryptozoologie, la discipline qui s'occupe des animaux cachés, encore inconnus de la science. Il était convaincu que de grandes créatures mystérieuses attendaient encore d'être découvertes dans les océans.
Les animaux cachés sont les animaux qui ne sont pas encore reconnus officiellement par la zoologie parce qu'on n'en possède pas encore de restes, ni de peau, ni même une dent qui suffit généralement pour les paléontologues. Ce sont des animaux qui ne sont connus que par des témoignages de gens qui les ont vus ou des légendes aussi qui sont souvent fondées sur une réalité. C'est cet ensemble, si vous voulez, de preuves testimoniales et de preuves circonstancielles qu'on ne doit pas négliger en zoologie et qu'on a négligé jusqu'à présent.
Il reste énormément de bêtes à découvrir. En fait, si on s'en tient aux petites bêtes, évidemment, chaque année, on en découvre des centaines de milliers. Mais le problème qui m'intéresse le plus, c'est celui des grosses bêtes, de celles qui sont susceptibles d'être connues par des voies indirectes. Par exemple, ces animaux aquatiques ou marins dont on aperçoit une partie seulement et qu'on interprète parfois mal, mais qui souvent sont des animaux encore inconnus.
Le serpent de mer est devenu un des monstres préférés des médias, bien avant que Nessie, le monstre du Loch Ness, ne devienne une star dans les années 30. Mais avant de faire la une des journaux à sensation à la fin du 19e et au début du 20e siècle, le serpent de mer terrorisait déjà les marins depuis très très longtemps.
Le serpent de mer, c'est une très vieille histoire.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Les tout débuts de l'histoire du serpent de mer, c'est avant tout la Renaissance. Parce que la Renaissance, c'est les débuts de la zoologie moderne, au XVIe siècle très précisément. Et les premiers naturalistes scientifiques essaient de démêler tant bien que mal ce qui est animaux mythiques, voire mythologiques, issus des bestiaires, et ce qui pourrait être des animaux réels, bien qu'extraordinaires. Ça arrive, certains animaux réels aient des caractéristiques extraordinaires. Et donc, à partir du XVIe siècle, vous avez des savants scandinaves qui parlent du serpent de mer, mais qui sont vraiment des pionniers de la science. Vous avez par exemple le cartographe Olaus Magnus, qui était un évêque catholique suédois, Olaf le Grand, qui vivait à Rome et qui parle du serpent de mer. Mais il dit quand même, et là on voit bien que ces naturalistes et ces scientifiques de la Renaissance avaient encore une certaine crédulité, qu'il est tellement grand cet animal allongé comme un serpent qui est un animal marin qui peut parfois faire sombrer des bateaux.
Les marins ou les terriens voyaient des animaux de loin.
Nelson Cazeis, auteur du livre Les monstres marins.
On ne savait pas trop ce que c'était. Ils pouvaient voir des baleines sauter hors de l'eau, ils pouvaient voir des grands requins, des têtes de tortues luttes. Donc ils s'imaginaient que c'était des monstres fabuleux. D'ailleurs, ils avaient très peur de ces animaux. On voit sur les cartes marines jusqu'à 1650 figurer des monstres. Et pendant le Moyen-Âge, on n'osait pas s'aventurer dans l'océan Atlantique parce que cet océan était peuplé de monstres effroyables qui dévoraient les marins, qui faisaient couler les bateaux. On y a cru jusqu'au XVIIe siècle. L'ichtyologie, la cétologie sont des sciences relativement neuves. L'ichtyologie, bon, on dit que ça a vraiment commencé au XVIe siècle avec Rondelet, mais la cétologie, c'est beaucoup plus récent. C'est vraiment qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on a commencé à connaître, je dis bien à connaître, les grands cétacés et les autres. Les marins décrivaient ces animaux. Et bien souvent, les scientifiques ne pouvaient pas les voir, parce que les scientifiques, ils étaient dans des laboratoires au muséum à Paris ou dans des grandes villes, donc ils n'allaient pas au bord de mer, ils n'allaient pas en mer. Donc ils n'avaient que les descriptions de marins ou de voyageurs. Par exemple, un scientifique qui s'appelle l'abbé Bonnater, qui serait un des premiers cétologues, lui déplorait que des naturalistes qui vivaient au bord de mer ne décrivent pas de façon scientifique les animaux que l'on trouvait, qui s'échouaient par exemple sur le rivage. Alors bon, un jour, il y a une baleine qui s'échoue, je crois, en Angleterre, et aussitôt dans les articles de journaux, on parle d'une baleine, d'un cétacé de 70 ou 80 mètres de long. Et lui, il fait son enquête. Et finalement, cet animal auquel on attribuait une longueur de 80 mètres ne mesurait que 13 mètres. Bah c'est vrai, écoutez, aussi, imaginez des marins qui traversent l'Atlantique sur un voilier de 20-30 mètres et ces marins qui voient surgir hors de l'eau un cachalot de 15, 16, 17 mètres devant eux ou un autre grand cétacé. Bah c'est quand même assez effrayant parce qu'on les connaissait mal.
Le problème, c'est que le serpent de mer, c'est avant toute chose, au départ, une catégorie mythologique.
Benoît Grison.
Les Vikings, les anciens Scandinaves au Moyen-Âge parlaient bien d'un grand serpent qui vivait dans la mer, mais c'était un serpent clairement mythologique qui allait participer à la destruction du monde, à la fin des temps, etc. Le problème est de savoir si le serpent de mer dont on parle à partir du XVIe siècle, lui, a un fondement réel, parce qu'après tout, un mot, ça n'est qu'un mot. Que les marins scandinaves parlent à partir de la Renaissance, suivis par un certain nombre d'érudits des pays du Nord, de grands animaux qu'ils rencontrent, qui ressemblent à des grands serpents marins, et qu'ils appellent serpents de mer, c'est pas parce qu'ils utilisent ce terme qui vient de la mythologie scandinave que l'animal n'existe pas forcément.
Les premiers qui ont cherché à avoir des résultats là-dessus, c'est un évêque, c'est Éric Pontoppidan.
Éric Joye, naturaliste et cryptozoologue.
Qui était danois. Et dans les années 1800, il commence à s'intéresser à la question. Il interroge les marins locaux, les pêcheurs locaux, qui lui décrivent un animal. Alors, bien sûr, c'est parfois un peu entouré de superstitions. Il parle d'un monstre géant, etc., qui attaque les navires.
« Et ensuite, il y a un certain nombre d'érudits, y compris au XVIIe siècle, l'italien Francesco Negri, qui parle de ces serpents de mer, qui seraient un animal marin à l'allure de serpent, ce qui ne veut pas dire qu'il est un serpent, il est simplement allongé, et qui vivrait à l'époque où on le situe surtout en Scandinavie.
Allez, montre-toi, montre-toi.
C'est moi que vous parlez, Marc ?
Oh, cette créature. Ils ne vont jamais me croire chez moi, jamais. Remarquez, je n'y aurais jamais cru non plus. Toute cette histoire est incroyable. Le monstre va revenir. C'est pour ça que nous devons le capturer.
Les héros de la créature du Lagon Noir, film fantastique réalisé par Jack Arnold en 1954, sont confrontés à une créature supposée légendaire, mais qui est bien réelle. Ce sera la même chose pour le serpent de mer. Au fil des ans, des siècles, ce monstre marin semble devenir de plus en plus réel.
On peut remonter très loin, on peut remonter à certaines chroniques du Moyen-Âge où des navigateurs parlent de rencontres avec des monstres marins.
Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS.
Là, on est dans un état d'esprit qui est celui de l'époque où on croit aux miracles, on croit aux monstres, on croit à toutes sortes de choses fantastiques. Donc c'est un peu différent des rapports beaucoup plus factuels qui sont arrivés plus tard. Et graduellement, au XVIIIe siècle, par exemple, on voit certains des premiers naturalistes qui s'intéressent à la faune marine évoquer des choses qui se rapprochent du serpent de mer. Et ensuite, vraiment, c'est au XIXe siècle qu'on commence à avoir des rapports parfois très détaillés de marins qui racontent leur rencontre avec ce qu'on a appelé assez rapidement le grand serpent de mer. Il y a des épisodes célèbres sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, vraiment au début du XIXe siècle. Et puis après, ça se multiplie avec des capitaines de navires rentrent au port en racontant qu'ils ont vu le grand serpent de mer et qu'ils donnent des détails plus ou moins précis sur l'animal.
Peu à peu, on va avoir quantité de témoignages, et surtout au XVIIIe et au XIXe siècle.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Au XIXe siècle, les savants britanniques vont beaucoup s'engouer pour le serpent de mer. Vous avez par exemple Charles Lyell, qui est un des fondateurs de la géologie moderne et qui s'intéressait forcément beaucoup à la paléontologie, qui est un ami de Darwin, et Charles Lyell a recueilli des témoignages de serpents de mer. Et tous ces savants britanniques, et particulièrement victoriens, bien informés par la marine britannique, commencent à spéculer. Et on se dit, comme c'est l'âge d'or des débuts de la paléontologie des vertébrés, qu'on exhume des reptiles du secondaire, des strates, eh bien on se dit, est-ce que ces serpents de mer ne seraient pas des survivants des reptiles marins du secondaire, ceux qui étaient contemporains des dinosaures ? C'est ce que se disent les savants britanniques du XIXe siècle. Sauf que, malheureusement pour eux, il est très rare qu'un reptile fossile puisse onduler dans le plan vertical. Or, les témoins crédibles du serpent de mer au XIXe siècle disent toujours que leur animal, entre guillemets, celui qu'ils avaient vu, ondulait sur un plan vertical, ce qui traduit plutôt un mammifère, parce que les mammifères ondulent sur le plan vertical à cause de la structure de leurs vertèbres. À partir du XXe siècle, le problème du serpent de mer, il va être formulé comme ça. Est-ce qu'il y a des grands mammifères marins qui seraient encore inconnus et qui donc aurait une apparence allongée, qui leur aurait valu ce sobriquet de serpent de mer.
Et oui, même si on l'appelle le grand serpent de mer depuis toujours, il y a pourtant de grandes chances pour que le serpent de mer soit tout sauf un serpent.
Les chercheurs sérieux qui ont analysé ça ont trouvé plusieurs catégories de descriptions cohérentes. Il voyait très souvent un animal donc ondulant sur le plan vertical, je le répète, c'est un point important, avec un long cou, une petite tête. Parfois, il signalait, quand il l'avait observé d'assez près, la présence de poils, ce qui traduit aussi la nature mammifère, mammalienne, comme on dit aux zoologies, de l'animal supposé. En général, une taille assez imposante, comparable à celle au moins d'un petit cétacé. Si ce n'est un cétacé déjà plus grand, par exemple tel une baleine à bec, qui est une sorte de dauphin mais sans dents, largement édenté, qui fait une dizaine de mètres.
Quelle relation la presse ou les médias entretenaient au début de l'apparition du grand serpent de mer ? Est-ce que c'est pas un truc un peu pour vendre de la copie, on va dire, mais
Allez, on dit toujours qu'on parle du serpent de mer dans les journaux quand on n'a plus rien à dire dans les informations,
oui.
Quoi.
C'est devenu, oui, une phrase du langage courant.
Éric Buffetaud.
Un serpent de mer, c'est quelque chose qui revient régulièrement pour meubler les journaux quand il n'y a rien à dire. C'est venu petit à petit, mais au 19e siècle, les rapports sur les serpents de mer étaient fréquents et repris par la presse. Ça servait, oui, à faire vendre... et à remplir des pages un peu vides. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, bon, je ne dirais pas que tout le monde en voyait, mais ces descriptions d'animaux mystérieux rencontrés dans l'océan étaient nombreuses. Hein. Il suffit de relire le livre de Valmont et d'autres pour voir que c'était quand même relativement fréquent qu'un capitaine revenant au port raconte qu'il avait rencontré un grand serpent de mer.
En août 1817, dans la baie de Gloucester au Massachusetts, donc en Amérique, à quelques kilomètres de Cape Ann, il y a des observations pendant plusieurs semaines.
Éric Joie, naturaliste et cryptozoologue.
Des témoins qui, de la plage, voient ces créatures. Il y a même des gens qui la mesurent de loin. Enfin, il y a des estimations. Il y a des zoologistes qui vont sur place. Il y a des publications par la Société linnéenne de Nouvelle-Angleterre qui crée un comité chargé d'élucider l'énigme. Donc, les scientifiques commencent à s'y intéresser. Et donc, ça va faire la une des journaux.
Les gens voient quoi, alors, à cette époque-là?
Quelque chose qui ondule. Avec des arceaux sur la mer, de là on prend le terme de serpent, sauf qu'un serpent, c'est pas en vertical que ça ondule, mais c'est horizontalement. Mais l'image du Moyen-Âge, du serpent ondulant, des vieux écrits moyenâgeux ondulant verticalement, mais reste malgré tout dans l'esprit des gens, quoi.
Et on voit sa tête?
De loin, parce qu'il est quand même pas proche, donc on le décrit tant bien que mal. Cet animal va revenir, il y a plus de 130 rapports entre 1777 et 1877 dans la zone. Ça, c'est le gros truc.
Ensuite, il y a des navires de différentes nationalités.
Éric Buffetaud.
Il y en a un qui s'appelait le Dédalus, donc le capitaine a décrit... avec force détail, un animal inconnu ressemblant à un serpent de mer.
Pendant le quart de 4 à 6, à 5 heures environ, nous avons observé sous le vent un poisson des plus extraordinaires qui croise notre arrière dans la direction sud-ouest. Sa tête, qui, avec la nageoire dorsale, était la seule portion visible de l'animal, paraissait plus longue, pointue et aplatie sur le sommet. La nageoire se trouvait peut-être à 6 mètres en arrière de la tête et n'était visible que par moments. Le capitaine prétendit qu'il avait aussi vu la queue ou une autre nageoire à environ la même distance, au-delà. Le dessus de la tête et des épaules semblait d'une couleur brun foncé et le dessous de la mâchoire inférieure d'un blanc brunâtre. Ça, c'est le témoignage qu'on a fait. Alors, on a eu des dessins.
C'est pas petit, hein, ce qu'il
dit. C'est pas petit, ce qu'il décrit.
Et ça, c'est un peu dans toutes les mers du monde.
Éric Buffetaud.
Il y a eu un exemple célèbre où la marine française rapportait avoir vu un serpent de mer dans la baie d'Along, sur la côte du Vietnam, par exemple. Donc, un peu partout dans les océans, notamment pendant le 19e siècle, il y a de nombreux témoignages sur le serpent de mer.
Richard Owen, qu'on connaît bien,
Éric Joie.
Le zoologiste paléontologue britannique, la vedette de l'époque, eh bien, Richard Owen déclare qu'en fait, les marins du Daedalus ont vu un éléphant de mer. Les officiers, Mackay, dit que ce qu'il a vu, c'est pas du tout un éléphant de mer, qu'il sait ce que c'est, qu'il en a vu, qu'il a assez d'expérience de la mer pour savoir ce qu'il voit quand même. Hein. Bon, il s'offusque un petit peu en disant, prenez pourquoi ? Je sais pas, si je suis pas capable de reconnaître un animal marin alors que je suis marin, je dois prendre ma retraite, quoi. Bon. Puis il y a eu d'autres hypothèses qui ont été émises, un python égaré, enfin bon, etc. Oh oui, ça a été dans tous les sens. Là, on a affaire visiblement, effectivement, à un mammifère, mais lequel ? Ça, on n'a pas la réponse. Donc ça, c'est une des premières affaires, une des plus importantes, finalement, de l'époque du 19e siècle.
« quand on pense au serpent de mer, bah évidemment, on pense à un animal avec des anneaux qui avance verticalement dans l'eau. C'est un peu l'image...
C'est l'image classique, effectivement,
l'image
qu'on voit dans les caricatures.
Avec sa tête qui sort, etc. Mais c'est pas... C'est pas vraiment ça, quelque part. Ou il y en a en tout cas de multiples formes, il n'y a pas que cette forme-là.
Tout à fait, c'est la forme que le public a retenue, aidée en cela, je pense, par les dessinateurs dans la presse.
Éric Buffeteau.
Et effectivement, certains témoignages évoquent un animal qui se déplace en ondulant verticalement, ce qui est quand même assez rare dans la nature. Hein. Les animaux aquatiques se déplacent pas très souvent par ondulation verticale, et certainement pas les serpents aquatiques d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'autres types. Hein. Y a des, parfois, l'animal ressemblerait plus à un crocodile. Il y a un épisode assez connu d'un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale qui aurait aperçu un monstre marin qui ressemblait à un gigantesque crocodile. Quelquefois, ça ferait plutôt penser à une sorte de gigantesque tortue, même on est très loin de l'espèce serpentiforme. Il y a toute une diversité des rapports sur le serpent de mer. Souvent, il est décrit aussi comme ayant plutôt une tête ressemblant à celle d'un cheval et parfois une crinière même. Donc, des morphologies très très variées.
C'est la première fois que je vois les empreintes d'un animal aussi énorme. Qu'est-ce que c'était ?
Ah, ça, nous l'ignorons. Ces traces pourraient être caractéristiques à un cryptodira.
À quoi ?
Une tortue. De l'ère préhistorique. À cette époque-là, il y avait dans les profondeurs des monstres qui pouvaient avaler deux dinosaures d'un coup. De nos jours, on ignore ce qu'il y a là-dessous.
Dans le Kichishi Monstre des Bermudes de 1978, réalisé par Tsugunobu Kotani, des scientifiques courageux doivent faire face à un serpent de mer qui a la forme d'une tortue gigantesque et monstrueuse. Ne riez pas, de tels témoignages existent concernant les monstres aquatiques, bien qu'ils soient assez rares. La plupart des signalements du serpent de mer font le plus souvent état d'un animal à la forme allongée.
Cela ressemblait à un long serpent avec des écailles. J'ai d'abord vu sa tête. Il avait des yeux très larges comme ceux d'un chat qui réfléchissaient la lumière et bougeaient dans toutes les directions. Sa tête montait et descendait.
La question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut croire ces gens ?
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Est-ce que les descriptions sont crédibles et cohérentes entre elles ? Des témoins crédibles, on en trouve beaucoup. Des gens qui n'avaient absolument pas intérêt à raconter telle chose, ne serait-ce que pour leur carrière. Des gens qui longtemps n'ont pas rapporté de telles rencontres. Des marins professionnels qui connaissent bien la mer et la faune. Moi-même, j'ai interrogé des pêcheurs à Terre-Neuve qui ont fait telle description à la fin des années 1990 et qui étaient, comme j'ai pu constater, très respectés par leur communauté villageoise qui les soutenait dans leurs témoignages sur la base de la confiance qu'ils leur portaient depuis des décennies. Mais qu'est-ce qui peut éventuellement induire en erreur même les témoins crédibles ? Bah déjà, vous avez des mirages optiques, notamment dans les mers septentrionales. À cause de couches atmosphériques de températures différentes, vous pouvez avoir des objets, soit des objets biologiques, hein, des morses ou des phoques, soit des bois flottants, qui peuvent être distordus dans la perception qu'on en a, voire même dont l'image peut être projetée dans l'atmosphère, un peu comme dans un mirage de désert. Et il est possible qu'un certain nombre de témoignages de serpents de mer soient liés à des mirages. Et un spécialiste d'optique qui s'appelle Len, un nord-américain, qui a bien montré ça de manière crédible en ce qui concerne certaines eaux septentrionales, hein, des mers froides. Après, c'est pas possible de ramener tout à de telles illusions optiques.
Pour la biologiste canadienne Sophie Campaya, les illusions d'optique, mais aussi les méprises avec d'autres animaux marins, peuvent expliquer les apparitions du serpent de mer. Elle garde néanmoins l'esprit ouvert.
J'attribue souvent la vision de ces monstres-là à un phénomène vraiment réel. Par exemple, sur les bords du lac Memphrémagog, moi j'ai regardé à quelques reprises, et puis, pas loin de Georgeville par exemple, il y a quand même des pans de roches. Il n'y a pas de plage en tant que telle, alors si un bateau passe, les vagues du bateau vont aller se frapper sur le pan de roche et puis revenir vers le milieu du lac. Le temps que ça prend pour qu'ils reviennent vers le milieu du lac, cette vague-là, Le bateau est parti, ça fait longtemps. L'eau est parfaitement calme. Et puis, on voit la vague. Et si quelqu'un, peut-être, connaît pas vraiment cet endroit-là, il pourrait penser qu'il y a une bête qui nage. Parce qu'il y a une vague, puis on n'a aucune explication logique pourquoi cette vague est là. Dans l'océan, il y a des choses qui sont un peu plus surprenantes. Par exemple, il y a une sorte de poisson qui s'appelle, je pense que c'est le roi des saumons. C'est une espèce de serpent de mer. Ça a vraiment l'air d'un serpent de mer. Ça peut être, peut-être 6 mètres de long. C'est incroyable comme bête. Nous, on avait retrouvé là, des petits spécimens, mais un gros spécimen, quelqu'un voit ça, il va dire tout de suite que c'est un serpent de mer. Moi, je suis certaine. Alors souvent, quand on a peu de connaissances biologiques, on explique ce qu'on voit par ce qui se rapproche le plus. Il y a un détail qui me surprend dans le cas des monstres marins. Je vais dire que j'y croyais pas beaucoup. Je travaillais sur la côte ouest de l'île de Vancouver et j'ai vu une affiche par un scientifique de l'Université de Colombie-Britannique qui disait « Si vous avez vu ce monstre, téléphonez-moi. Si vous pouvez m'en rapporter un morceau ou une preuve quelconque, je vous donne 500 $ Il y avait vraiment une affiche. Quelqu'un aurait pu être comme un chasseur de primes, essayer de ramasser le monstre et puis en fournir la preuve. Ça m'a vraiment impressionné.
Effectivement, les scientifiques, les cryptozoologues qui traquent le serpent de mer depuis si longtemps rêvent tous de mettre la main sur un spécimen de cet animal protéiforme.
Il y a quand même l'éternelle question, comment se fait-il qu'après tout ce temps, on n'ait jamais eu de spécimen ?
Benoît Grison.
Alors, on a retrouvé des carcasses, mais à chaque fois, ça s'est avéré ne pas être des carcasses de serpents de mer, d'être des carcasses d'animaux connus.
Tout à fait. Beaucoup de cétacés ont des compositions avancées, mais surtout, le syndrome, ce que j'appelle le syndrome du requin pèlerin déliquescent. Le requin pèlerin, qui est le deuxième plus grand requin actuel, il peut dépasser les 4 mètres, quand il se décompose sur des plages notamment européennes, on obtient au bout de quelques jours de décomposition une apparence pseudo-plésiosaurienne. Vous savez le plésiosaure, ce qu'on appelle en paléontologie des sauropterygiens, ce reptile marin du secondaire qui vivait en même temps que les dinosaures, à long cou, à queue pointue, à 4 palettes natatoires. Quand un requin pèlerin, qui est un gros animal de plusieurs mètres, un gros requin, se décompose, perd notamment une partie de sa tête par décomposition, on a l'impression, avec ce qui reste de la tête, qu'il y a un long cou avec une petite tête, et puis, peu à peu, l'aspect du corps devient absolument méconnaissable, et la décomposition donne l'impression que le requin a des poils. En réalité, c'est la décomposition de ses téguments. Et très très souvent, les gens ont cru trouver des cadavres de serpents de mer quand ils tombaient sur un requin pèlerin en décomposition extrême.
Normande possède maintenant son monstre marin. Le voilà échoué sur la plage de Kerqueville. Il mesure 8 mètres. Le docteur Petit, sous-directeur des pêches coloniales au muséum, a étudié sur place ce curieux animal. Il possède une tête de chameau, un œil unique, des nageoires de chimère, une peau de phoque, une chair de raie et des polis d'éléphant. Le savant a déclaré que sans pouvoir encore se prononcer de façon définitive, il croyait se trouver en présence d'un salacien, sorte de gigantesque poisson à la peau cartilagineuse.
L'affaire de Kerqueville, qui a mis en émoi la presse dans les années 1930, a été vite résolue par les spécialistes du Muséum d'histoire naturelle de Paris, dont le professeur Petit. Ils ont tout de suite compris, avant même d'y aller, que c'était un requin pèlerin, mais ils sont quand même partis, étant consciencieux sur place, pour faire des prélèvements et le démontrer. Il y a eu plein d'affaires comme ça, où les gens s'y sont laissés prendre, du moins les non-spécialistes. Et il y a encore quelques années de ça, sur l'île de Ré, parce que parfois, il y a des requins pèlerins qui passent pas loin de l'île de Ré, dans la zone de La Rochelle et Charente-Maritime. Il y a eu aussi des gens qui ont signalé en toute bonne foi une sorte de monstre marin à allure de plésiosaure échoué. C'était un requin pèlerin. Ça, c'est une source de confusion extrême.
Nous sommes des profanes pour ce qui concerne l'exploration des très grandes profondeurs. C'est vrai, scientifiquement, l'animal croît davantage en fonction de la profondeur. Je vais te montrer.
Souviens-toi de cet animal découvert par un pêcheur japonais sur la côte de la Nouvelle-Zélande. On n'a jamais su ce que c'était.
D'après ses dimensions, nous avons pensé au plésiosaurus disparu depuis 100 millions d'années.
C'est peut-être l'affaire de carcasse mystérieuse qui a fait couler le plus d'encre. En 1977, un chalutier japonais, le Zuiyomaru, récupère dans ses filets le cadavre d'un grand animal en décomposition au large de la Nouvelle-Zélande. Il aurait eu un grand cou et des nageoires. La télévision japonaise n'hésite pas et envoie une de ses équipes en pleine mer avec un hélicoptère pour interroger les marins qui ont fait cette prise sensationnelle.
Le 25 avril à 10h30, on a remarqué que quelque chose d'énorme s'était pris dans nos filets. Un gros animal à la chair rougeâtre et qui sentait très mauvais. On ne savait pas ce que c'était, alors j'ai pris mon appareil photo et j'ai commencé à le photographier.
Les images étaient impressionnantes à l'époque. La télé japonaise est venue sur le chalutier pour filmer, etc. Ils ont récupéré un truc qui ressemblait à une sorte de plésiosaure.
Tous les experts ont conclu sans hésitation que s'agissait de requins.
Éric Buffeteau, paléontologue et chercheur au CNRS.
Là, on se trouve dans un cas où il y a une ressemblance superficielle avec quelque chose qui d'ailleurs n'est pas un serpent, mais avec un animal qui a bien existé, mais il y a des millions d'années, à savoir le plésiosaure. Là, on arrive à un point qui est intéressant, c'est que souvent en cryptozoologie, on a tendance pour expliquer un être encore inconnu à aller chercher dans des animaux qui n'existent plus aujourd'hui, dans des animaux connus à l'état fossile. Bernard Overmans s'est beaucoup servi de cette approche d'ailleurs. Effectivement, c'est plus simple, plutôt que d'inventer de toute pièce une créature que personne n'a jamais vue, d'aller chercher parmi les animaux disparus quelque chose qui ressemblerait aux descriptions qui sont données d'une bête ignorée, comme disait Overmans. Et donc ça a été fait de multiples fois, et dès le moment où on a pris connaissance de l'existence du plésiosaure, et ça remonte à environ 1820, les premières découvertes de plésiosaures à état fossile, et qu'on a compris à quoi ça ressemblait, très vite il y a eu une assimilation qui s'est faite entre certains témoignages sur le serpent de mer et les plésiosaures. De même d'ailleurs pour le monstre du Loch Ness. Il n'y a aucune raison de penser qu'il existe encore des plésiosaures. Les derniers restes fossiles de plésiosaures que l'on connaisse, ils ont dans les 66 millions d'années, et puis après on n'a plus rien à état fossile. Ça pose un problème, mais l'image du plésiosaure a pas mal déteint, si on peut dire, sur celle du serpent de mer.
Faisons le point sur la situation de ce dossier cryptozoologique compliqué. Les marins rapportent des observations de monstres aquatiques depuis toujours. On a appelé abusivement ces créatures non identifiées des serpents de mer. Mais on n'a jamais retrouvé ou capturé aucun spécimen. Ensuite, la forme de ces animaux peut varier énormément selon les différents témoins. Ils pourraient ressembler à de gros crocodiles, à des tortues monstrueuses ou de grands animaux à la forme allongée, parfois avec un long cou. Dans son livre « Le grand serpent de mer », l'inventeur de la cryptozoologie Bernard Heuvelmans a dû imaginer différentes hypothèses pour tenter de trouver une solution au mystérieux serpent de mer.
Il va essayer de les systématiser sous forme de tableaux.
Michel Reynal, cryptozoologue confirmé.
Et d'essayer de retrouver les critères semblables dans les différents témoignages. Ça avait déjà été le cas avant lui. Un naturaliste zoologiste, même hollandais, Oudemans, avait fait ça à la fin du 19e siècle. Et il était arrivé à la conclusion de l'existence possible, selon Oudemans, d'un animal serpentiforme avec une très longue queue, un très long cou. Heuvelmans, en 1965, il a repris tous les témoignages sur lesquels s'était basé Oudemans. Il a également enrichi pas mal les dossiers et autres. Et alors que Oudemans lui essayait de faire un seul animal inconnu de toutes ces observations, il va diviser ça en une dizaine de types. Alors il y a une sorte d'otarie à long cou dont il va faire le prototype du monstre du Loch Ness. Une sorte de super loutre dans les mers scandinaves. Un animal qui va appeler le multiboss, avec plein de bosses sur le dos, qui est plutôt sur la côte est des États-Unis, enfin, etc., etc. Il en définit comme ça une dizaine. Le problème, c'est que aujourd'hui, la documentation s'étant pas mal enrichie, cet édifice qui semblait être extrêmement pertinent s'effondre comme un château de cartes. En fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement la quantité des témoignages, c'est leur qualité. Et lorsque on creuse suffisamment le dossier, eh bien, certains témoignages qui semblaient être solides finissent par devenir beaucoup plus flous.
Un autre scientifique, le docteur Oudemans, a écrit un livre sur le grand serpent de mer en 1892.
Nelson Cazeis, auteur du livre « Les monstres marins ».
C'était le directeur du zoo de La Haye, je crois, et il a recensé toutes les observations du serpent de mer entre le XVIe siècle et 1890. Il avait noté à peu près 180 observations. Ce qui m'a troublé dans le serpent de mer, c'est qu'on en observe un peu partout, même ici dans le Saint-Laurent, on en a observé. Là, j'ai un livre de vision du Labrador de Louis-Philippe Côté qui signale une observation du serpent de mer à cette île en 1933. Tous les gens de cette île avaient pu voir sa tête plate et large s'ouvrait en une gueule immense armée de dents redoutables. Son cou submergé allait rejoindre deux ou trois anneaux ou bosses espacées d'une vingtaine de pieds, le tout terminé par une queue aussi grande qu'une voile de barge, vue de côté. Ce genre d'observation, on en a fait un peu partout. Dans la majorité des cas, ce qu'on croit être un serpent de mer, ce sont d'autres animaux. Ça peut être une succession de marsouins, des requins pèlerins qui se suivent à la queue leu-leu, des tortues luttes aussi. Bien souvent, le serpent de mer, c'est une confusion, une méprise. Mais est-ce qu'il existe? Alors là, c'est le... Peut-être qu'il a existé.
Il est dans l'eau! La lanterne lui a fait peur!
C'est pas possible non plus de ramener à des animaux connus.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Même si parfois, des gens ont signalé des animaux qu'on identifie, comme le régalec, qui est le plus grand poisson osseux et qui fait quand même 11 mètres de long et 350 kilos et qui a une crête rouge sur toute l'arène dorsale qui se finit en une espèce de couronne d'épines rouges sur la tête. Le régalec, le roi des harengs, fait un serpent de mer parfait. Mais bon, une fois qu'on a éliminé les mirages, surtout dans les mers froides, qu'on a éliminé les confusions avec les espèces connues, il reste quelques centaines de témoignages, pas beaucoup, qui sont crédibles, et qui se rangent en plusieurs catégories. Sur la première catégorie, sur la côte nord-est des États-Unis, les descriptions font penser à un grand mammifère marin disparu. La rétine de Steller. Alors la rétine de Steller, c'est un sirénien comme on dit. C'est-à-dire, vous savez, ces mammifères marins que sont le lamantin et le dugon, qui ressemblent superficiellement à des phoques et des otaries, sauf qu'ils ont une vraie queue de poisson à l'arrière du corps. Bon, bah, la rétine de Steller, qui faisait facilement 6 mètres de long et qui a été exterminée du côté du Kamtchatka, on sait maintenant qu'elle vivait autrefois aussi sur les côtes de l'Amérique. Or, le premier type de serpent de mer cohérent, qui est bien délimité géographiquement, qui était signalé dans la région de la Nouvelle-Angleterre et qu'on ne signale plus guère, et qui était très bien décrit par des baleiniers, etc., ressemble beaucoup, à 80%, à une rétine de Steller. Donc, au-delà des témoignages où les gens ont pu parfois se tromper, les témoignages de Nouvelle-Angleterre du XIXe siècle laissent supposer qu'il y a peut-être une population de cette rétine de Steller qui vivait encore à l'époque au large des côtes américaines. Ça, c'est le premier type de serpent de mer crédible. Et puis, vous en avez trois autres types qui sont crédibles. Vous avez des témoignages très nombreux, mais cohérents entre eux, qui font visiblement référence à un très grand poisson, se contorsionnant à la surface, qui est cohérent avec des poissons de profondeur qui seraient en déperdition physiologique en remontant par accident à la surface parce qu'ils ne sont pas adaptés aux eaux de surface. Et ces très grands poissons anguilliformes peuvent être effectivement des poissons abyssaux inconnus de grande taille. On a même trouvé des larves qui sont de grande taille et qui peuvent laisser supposer que les adultes sont vraiment de taille considérable. Le troisième type, lui, est très très connu sur la côte de la Colombie-Britannique, qu'on appelle parfois, c'est son sobriquet dans la presse, Capdorosaurus, mais qui a tout d'un mammifère, est un animal qui est un animal, s'il existe, hein, longiligne, d'où son sobriquet de serpent de mer, là encore, avec un long cou, parfois peut-être une crinière de poils, On dit souvent que la tête ressemble à celle d'un cheval. Il est très mammalien, on observe parfois des poils.
Ce Cadborosaurus est tellement célèbre en Colombie-Britannique qu'on lui a donné un surnom sympathique, Caddy. On l'aperçoit de temps à autre le long des côtes. Écoutez par exemple le témoignage saisissant de Sylvie Beauregard qui n'oubliera pas de sitôt sa rencontre avec Caddy. Elle est interrogée par Radio-Canada.
Le 7 décembre 2014, je promenais mes chiens comme à l'habitude, à tous les jours, sur le long de la mer. Il y a un sentier qui relie Cable Bay à Pebble Beach. Et il y avait un silence total dans la forêt, ce qui est assez inhabituel, quoique en décembre, bon, ça arrive. Mais là, il y avait une atmosphère particulière, disons, ce matin-là. Et tout d'un coup, j'ai regardé vers la mer et j'ai vu de loin une drôle de chose. Moi, il faut dire au départ que je suis pas le genre naïve. Je crois pas aux esprits, aux monstres, aux revenants. En tout cas, j'ai beaucoup de difficultés à croire à ces choses-là. Mais là, vraiment, cette journée-là, c'était assez bizarre. J'ai vu sur l'eau, je dirais, une espèce de serpent de mer. Donc, il y avait des ronds, là, des courbes. Et je me suis dit, bon, ben c'est drôle, ça. Il y a une danse de lion de mer ou de phoque, quelque chose. Et là, tout d'un coup, je vois aussi une tête qui sort assez haut, je dirais 4 pieds au-dessus de la mer, et à peu près 20 pieds plus loin, énormément de mouvements dans l'eau, de tourbillons. Alors, ça m'a rendue extrêmement curieuse, bien sûr, et croyant toujours que c'était des lions de mer, je me suis approchée davantage sur le bord de la plage. Je suis allée au bout des rochers et j'étais peut-être à 100 pieds. Et cette chose-là est restée là, sans bouger. Et il y avait autour, sur la plage, je me suis rendu compte, plein de lions de mer silencieux, comme si on avait peur d'aller dans l'eau. Mes chiens regardaient la chose. J'ai eu des frissons. Et là, j'ai fait, ben, peut-être que je fais pas bien ce matin, j'ai pas eu mon café, quelque chose. Et j'ai regardé longtemps. Et à un moment donné, j'ai senti un besoin de m'éloigner et d'aller dire à quelqu'un de venir voir ça. Malheureusement, j'avais pas ma caméra. J'ai toujours l'histoire avec tout le monde. J'ai habituellement ma caméra. Ce matin-là, je l'avais pas apportée. Alors, c'est sûr que je suis allée voir Paul Leblond, le spécialiste en cryptologie. Je lui ai raconté ça. Il m'a dit que j'étais pas la première à Galliano qui voyait ça. Alors, je sais pas. Je suis encore très, très méfiante et sceptique. Mais je dois admettre que c'est assez spécial ce que j'ai vu.
Il y a beaucoup de zoologues qui se sont penchés sur la question.
Paul Leblond, spécialiste du Cadborosaurus.
Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, apparemment, c'est pas un poisson, parce qu'on le voit à la surface, on le voit respirer, on l'a entendu faire des bruits. C'est soit peut-être un mammifère ou un reptile. Les experts penchent d'un côté ou de l'autre selon certaines caractéristiques. Les gens qui ont vu, par exemple, une crinière et des traits qui ressemblent aux mammifères, comme par exemple la flexion verticale quand on nage, se disent « bon, ben ça, c'est probablement un mammifère marin. Peut-être une espèce de phoque géant d'une espèce encore inconnue. » D'autres disent « ben, ça ressemble plutôt à un reptile, peut-être. Hein? C'est long et allongé comme un reptile. » Alors, ça, on ne sait pas quelle sorte d'animal c'est. Moi, comme naïf un peu, là, et non un professionnel, moi, je pense que ça ressemble surtout à un mammifère marin. Mais pourquoi le voit-on si rarement? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est certainement pas toujours le même animal qu'on voit depuis des siècles. Des fois, on en voit plus qu'un à la fois. Alors, on cherche, on attend qu'on en attrape un.
Paul Leblond a passé 50 ans de sa vie à étudier et à traquer Caddy, le Cadborosaurus.
C'est un mystère marin. C'est pour ça que c'est vraiment si intéressant, en fond. Il y a assez d'évidence pour moi pour croire qu'il y a un animal inconnu qui existe là. Est-ce qu'il y en a seulement une sorte? On ne sait pas au juste, parce qu'il y a des variations entre ce que les gens voient. Alors, il y en a peut-être trois sortes différentes. C'est encore plus compliqué. Apparemment, il y aurait quelque chose là. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je pense que si je voyais, je me lancerais à l'eau avec ma fourchette pour avoir faire une biopsie, peut-être.
Benoît Grison, notre biologiste passionné de cryptozoologie, a pu rencontrer fin des années 90 des témoins qui ont vu Caddy. Malgré son surnom sympathique, il semble vraiment terroriser ceux qui le voient.
Ce marin, Charles Bungay, et son principal collaborateur, comme on dirait, un pêcheur qui travaillait pour lui, ont observé, à la toute fin des années 1990, alors qu'ils étaient en train de pêcher, un énorme animal qui rentre dans cette catégorie de description que j'appelais tout à l'heure, ou plutôt que la presse nord-américaine appelle le catborosaure, à savoir un animal avec de plusieurs mètres de longueur, de la taille au moins d'un cétacé de type orque, flexueux entre guillemets, il aurait eu des espèces de bosses ou de sinuosités, un long cou, une tête de cheval, des gros yeux qui étaient également mammaliens, qui rappelaient ceux d'une vache, d'après les témoins, une sorte de crinière. Bon, quand les témoins sont approchés, ils n'ont pas tout de suite interprété ça comme un être vivant. C'est intéressant, parce qu'en fait, ils étaient un peu plus dubitatifs. Parce qu'il n'y avait pas de cou visible dans un premier temps, et ils ont vu ce qui ressemblait, disent-ils, à des caisses. Et très vite, on dit, mais non, ce n'est pas des caisses qui ont été perdues par un navire qui en transporterait et en trafiquerait. C'est quelque chose de vivant. Et à ce moment-là, on les croit, on ne les croit pas, mais il y a un cou qui a émergé. Donc un très long cou, flexueux là aussi, et avec cette tête qui ressemblait à celle d'un cheval, un mammalien, etc., avec une sorte de crinière de poils. Bon, la première chose qu'on pourrait dire, c'est...
Ils ont eu peur ou...
Alors, oui, ils ont eu peur, mais surtout, j'ai été les interroger de longues heures. À l'occasion d'un documentaire sur lequel j'étais conseillé, un documentaire consacré à la cryptozoologie, je les ai vus plusieurs jours. Dans différentes situations. Et puis j'ai interrogé les proches, j'ai été en interaction avec des gens aussi du village, et c'est à eux que je faisais allusion tout à l'heure, ils font partie de ces témoins qui, dont personne ne doute de la moralité, et de la rigueur et de la droiture, hein. Tout le village les soutenait. Bon, après, il y a quelque chose qui joue aussi en faveur de leur sincérité, c'est qu'ils ont eu peur, effectivement. Le fils de Charles Bungay, le témoin principal, m'a dit en aparté, hein, pas devant son père, j'ai pas douté un seul instant, je ne m'intéresse pas du tout à ces questions, et venant de quelqu'un d'autre, ça m'aurait fait rire, j'ai pas douté un seul instant que papa disait vrai, parce que quand il est rentré, il était terrorisé.
Caddy, le catborosaure, est vraiment un animal intriguant. Et plus intriguant encore, on en a peut-être attrapé un pour de vrai cette fois. On le sait, grâce à d'étonnantes photos poussiéreuses.
C'est des photos qu'avaient envoyées des baleiniers en 1937. Ils avaient trouvé dans un cachalot un animal bizarre, dans le tube digestif d'un cachalot. Et quand on voit les photos, ça fait effectivement penser à ce fameux catborosaure, dont ça aurait été un spécimen jeune. Le problème, c'est qu'une photo, même visiblement pas truquée, ne constitue pas une preuve.
Il y a quand même, je me fais l'avocat du diable, une carcasse qui pose question.
Éric Buffetaud.
Effectivement, il y a quelques restes qui sont considérés de façon hypothétique comme ayant appartenu à cet animal supposé. Je ne pense pas que ça suffise pour dire, ah oui, mais là, on a quand même quelque chose de sérieux pour dire qu'il s'agit d'un plésiosaure.
Hélas, personne ne sait ce qu'est devenue cette carcasse d'un bébé de catborosaure. Elle aurait pu prouver l'existence du serpent de mer. Pourtant, malgré le manque de preuves matérielles, des scientifiques restent persuadés qu'un tel animal pourrait exister.
L'océanographie, ça reste encore une science de découverte.
Paul Leblon, spécialiste du catborosaurus.
On découvre encore des animaux étranges et inconnus dans les océans. Ce n'est pas surprenant, il y a de la place. Et puis, il y a de la place pour des animaux encore considérables. On ne parle plus tellement de monstres parmi les cryptozoologues. On parle d'animaux inconnus, c'est-à-dire de cryptides. Parce qu'un monstre, c'est un animal qui est étrange et déformé, etc. Alors, ces animaux-là ne sont pas plus monstrueux que d'autres animaux qu'on connaît bien.
Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare. On n'entend plus parler de rencontres avec le serpent de mer.
Éric Buffetaud, paléontologue et chercheur au CNRS.
Et quel est votre avis sur la question ?
Ah, c'est une question vraiment embarrassante, parce qu'effectivement, quand on lit certains témoignages, qu'on voit qui les a écrits, je ne sais pas, des officiers de la marine britannique. Bon, un officier de la marine britannique peut raconter n'importe quoi, évidemment, si on veut. Mais des gens apparemment sérieux qui décrivent avec beaucoup de détails un animal qui ne ressemble à rien de connu, on est obligé de se poser quelques questions. Ensuite, ce qui est gênant, c'est que ça fait plusieurs siècles maintenant qu'on nous parle du serpent de mer et que rien de concret n'arrive. C'est différent, par exemple, de l'histoire du calmar géant qui, au départ, paraissait quelque chose d'assez légendaire et dont on sait maintenant que c'est un animal bien connu aujourd'hui et tout à fait réel. Le serpent de mer, il s'est pas passé la même chose. Les rumeurs et les témoignages au sujet du serpent de mer n'ont pas abouti à la découverte d'un animal nouveau. Et plus le temps passe, plus on est obligé de se poser des questions. D'un autre côté, il est certain qu'on n'a pas forcément recensé tous les animaux qui vivent dans les océans. Il arrive qu'on découvre des animaux, des poissons par exemple, d'assez grande taille, qui n'étaient pas reconnus comme des espèces particulière, ça arrive, donc on peut garder un peu l'esprit ouvert à ce sujet.
Mais pour conclure ce chapitre, si par exemple l'animal que vos deux marins ont rencontré est une sorte de Cadborosaurus, et si on peut prouver son existence, est-ce que ce serait une découverte incroyable ?
Ça serait une découverte fascinante.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Il s'agirait dans ce cas-là donc d'un mammifère marin extrêmement atypique, adapté à la haute mer, peut-être aussi à des eaux de profondeur importante, bien différent des cétacés classiques. Et certains disent, un tel Cadborosaure, s'il existe, c'est peut-être, donc, on en parlait tout à l'heure, un cousin des phoques et des otaries très spécialisés, mais d'autres disent, ça peut peut-être être un cétacé archaïque, parce que les cétacés anciens, avant qu'on ait les groupes qui sont apparus après, c'est-à-dire ceux qu'on connaît bien aujourd'hui, les cétacés à dents, comme le dauphin ou l'orque, ou les cétacés à fanons, comme le rorquale bleu, les cétacés anciens étaient beaucoup plus allongés, serpentiformes. Ils n'avaient pas un cou très délié, mais certains avaient un cou relativement délié. Donc, c'est sûr que ce serait la découverte d'un mammifère marin de haute mer et de profondeur sans doute assez importante par rapport à son écologie, avec des adaptations et une morphologie tout à fait étonnantes, et peut-être serait-ce un taxon Lazare, c'est-à-dire un survivant d'un groupe complètement disparu, comme celui par exemple des cétacés archaïques qu'on appelle les archéocètes.
Et ce serait un véritable serpent de mer.
Oui, au sens propre. Au sens propre et métaphorique, puisqu'une fois de plus, il n'est pas question de reptiles, là. Mais voilà.
Pourquoi ils ne vous croiront pas ?
Parce que l'on travaille sur des données connues, avec le savoir que nous avons accumulé jusqu'à présent.
Nous commençons tout juste à comprendre l'eau et ses secrets. Tout comme nous le faisons déjà avec l'espace. On n'exclut pas totalement la possibilité qu'il puisse y avoir une forme de vie sur une autre planète. Alors pourquoi pas une autre forme de vie totalement différente ? Dans un monde que nous connaissons déjà, qui serait habité par des millions de créatures vivantes.
Prochain épisode, qui a peur de la bête du Gévaudan ? Quelle bête monstrueuse a ravagé la région du Gévaudan dans la France du XVIIIe siècle en faisant des centaines de victimes ? Un loup monstrueux ? Une créature mi-homme, mi-loup ? Ou un cryptide inconnu ?
Cette bête-là, elle a des mâchoires considérables qui lui servaient à faire éclater la boîte crânienne et à manger la cervelle de ses malheureuses victimes.
Tous les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.